应该是打高尔夫了。
On va les enfants. À bientôt. Au
revoir mon père.
Au revoir mon père.
Au revoir mon père. Au revoir mon père.
I love you, but you don't know what you're talking about.
I love you too.
Elle vous a trahi et vous n'avez jamais compris pourquoi.
Comment savez-vous toutes ces choses?
Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission de cinéma sur Transistor. Alors cette semaine, nous revenons en grande forme puisque notre toile accueille non pas un mais deux films, à savoir Moonlight et Silence. Et pour en discuter avec moi, j'ai à mes côtés les yeux et les voix de Pierre, Anna et Anastasia. Bonjour à tous.
Bonjour Rémi.
Bonjour Rémi.
Bonjour.
Et nous débutons donc avec un film extrêmement attendu, annoncé comme un jalon majeur dans la carrière de l'immense Martin Scorsese, à savoir Silence. Alors qu'est-ce qui se passe dans ce film, Anastasia?
Bon, on est au XVIIe siècle avec deux prêtres jésuites, Rodrigue et Garup, envoyés au Japon pour retrouver le père Ferreira, qui est parti avec la mission d'évangélisation du Japon. Le voyage est extrêmement dangereux car les feux japonais coupent toute tentative des paysans de se convertir aux dieux chrétiens. Rodrigue et Garup devront mener dans la clandestinité leur quête périlleuse qui confrontera leur foi aux pires épreuves.
Oui, c'est exactement ça, et en même temps c'est bien plus encore, et on va donc en discuter tout de suite, mais peut-être d'abord connaître votre avis à tous les deux, Pierre, Anastasia. Alors on commence avec le tien, Pierre.
Bah moi j'y suis allé en me disant « Oh trop bien, nouveau Scorsese, oh trop bien, le Japon médiéval, ça a l'air trop stylé ». Et ben en fait, c'était long. J'ai pas vraiment apprécié le film pour plusieurs raisons, à savoir que franchement, au bout de 2h30 de quelqu'un qui se touche la nouille à propos de religion, voilà quoi, c'est un peu relou au bout d'un moment. En plus, je trouve que c'est beaucoup trop centré sur les chrétiens et tout, alors que moi j'y suis allé en me disant « trop bien, je vais pouvoir voir le Japon médiéval » qui est vachement bien reconstitué, ça franchement, je n'en démordrai pas, c'est une très belle reconstitution historique.
Mais nous ne t'en ferons pas démordre.
Mais c'est juste que voilà, l'histoire ne tient pas vraiment la longueur, c'est un film extrêmement long, où il se passe pas grand-chose, même si la filmographie, enfin la cinématographie, la... comment on dit la photographie, voilà, merci, je savais que c'était un truc en i. La photographie est vraiment sublime, avec des plans assez incroyables. Il n'empêche que le montage fait très amateur. Et ça m'a vraiment choqué par moments, avec des champs contre champs mal faits, qui déstabilisent plus la scène qu'autre chose, avec vraiment des moments où on se demande si le monteur n'était pas en vacances.
La monteuse, d'ailleurs.
La monteuse.
Bon, on reviendra du coup sur ces questions de montage, entre autres, mais on va peut-être d'abord voir ce que tu en as pensé, Anastasia.
Moi, je n'ai pas fait autant attention au montage, ça ne m'a pas perturbée. Par contre, j'étais un tout petit peu déçue du film, mais finalement... Mais non, je suis quand même partagée. Finalement, j'ai aimé le film parce que la conclusion que j'ai tirée, c'est en fait l'histoire personnelle, absolument personnelle de Scorsese. Et du coup, c'est vraiment la question de la foi, c'est vraiment la question qui est super importante pour lui. Et pour lui, c'est vraiment une question personnelle. Et c'est pour ça qu'on ne voit pas trop de bouddhisme, ni de japonais, ni de l'histoire plus active, disons. C'est vraiment la quête de Scorsese et la conclusion qu'il tire, qu'on voit juste à la fin du film, qui un peu la conclusion peut-être même de sa filmographie, même.
Eh bien, je te rejoins tout à fait, là tu m'ôtes toute mon argumentation de la bouche, Anastasia, mais alors Pierre, je suis désolé de te le dire aussi méchamment, mais tu n'as pas compris le film. Mais ce n'est pas un film qui parle de l'histoire, c'est là toute la force
du
film. Ce n'est pas un film historique, c'est un film qui se concentre purement et simplement sur la spiritualité, comme Scorsese tentait déjà de le faire avec ce chef-d'œuvre absolu qu'était La Dernière Tentation du Christ, et comme il réussit à nouveau à le faire avec ce film dont je ne prétends pas pouvoir dire quelques dizaines d'heures seulement après l'avoir vu, si c'est un chef-d'œuvre ou non. Mais toujours est-il que la beauté du film réside dans la suspension complète de son scénario a une spiritualité, au fait que c'est un film qui se concentre même pas sur les personnages, mais vraiment, et tu l'as dit Anastasia, sur l'intériorité du réalisateur. Et à ce titre, c'est une œuvre personnelle comme on en a rarement vu. Et Scorsese exprime ici ce qu'il a essayé d'exprimer pendant toute sa carrière. Les thématiques et l'articulation entre les thématiques de la foi, de la grâce et du sacré qu'il a essayé de mettre en scène dans chacun de ses films de façon toujours un petit peu détournée, alors peut-être plus frontale avec La Dernière Tentation, mais qu'on pense à New York, New York, qui finalement est peut-être l'opposé complet de ce film et qui malgré tout pose cette question de la grâce, pose ces questions de la foi, de la spiritualité par le biais de la musique, du spectacle.
Si j'avais su, je serais pas venu.
Mais en fait, tu parles de... toujours de la question personnelle de Scorsese, parce que pour moi c'était ce qui était un peu décevant pour moi quand même, c'est que il y a pas mal de films, je peux pas dire que je suis croyante, je suis plutôt athéiste, mais il y a quand même des films et des œuvres qui te persuadent que il y a quelque chose là-dedans, il y a quelque chose de, il y a des choses saintes. C'était pas le cas dans ce film, pas du tout. Et pour moi c'était décevant dans le film que je sais pas, j'ai pas vu la force de ce film au début, mais quand j'ai trouvé la réponse à la question c'est quoi ce film, c'est la quête personnelle, là c'était bon. Mais quand tu parles de la spiritualisation...
Mais justement, en fait, c'est là, je trouve, là aussi, l'un des messages très très forts du film, c'est le titre, hein, c'est qu'il n'y a pas de message.
Ah oui,
On se retrouve avec, entre nos mains, du silence, du vide, un vide désespérant. Tu disais, justement, cette spiritualité, cette foi, le film ne nous la procure pas, mais justement parce que le film parle du mystère de la foi, parle de cette foi qui est inaccessible. D'une foi qui consiste pas à croire en Dieu, mais à se demander à chaque instant s'il existe vraiment. Et c'est qu'ici, la peinture de la foi s'accompagne aussi d'une peinture de notre médiocrité en tant qu'humain, parce que cette foi, nous n'en sommes pas dignes. Ce personnage de Kijijiro qui est absolument ridicule dans le film, mais c'est bien ça qu'il montre, c'est qu'il montre qu'il est indigne de cette foi, qu'il est indigne de s'en servir autrement que matériellement, comme un outil. Et même les personnages centraux se montrent finalement indignes de cette foi qu'ils cherchent en eux.
Oui, c'est en fait parce que quand tu dis des personnages ridicules, pour moi, au tout début au moins, il y avait juste quelques moments où je me suis dit, bon ok, Rodrigue n'est pas si ridicule que ça en fait. Mais au début, c'était absolument ça. C'était pas des gens qui portaient quelque chose de sain à eux-mêmes. C'était vraiment des gens, ok, on a une mission, on va faire ça, on va faire les Japonais croire au Dieu chrétien et tout, sans faire aucune attention à ce qu'ils pensent et à leur, la nature de leur pays et tout.
Oui, d'ailleurs, alors au début, c'est ce que j'allais dire comme bémol. Je trouve que Andrew Garfield n'est pas si incroyable que ça dans son rôle. Finalement, peut-être qu'il s'efface devant le message, je sais pas. Mais par contre, je trouve qu'il laisse la place à un certain nombre de second rôles que je trouve extrêmement réussis. Ce personnage insupportable et mielleux de l'inquisiteur. Qui est assez fantastique dans son jeu et qui a l'air tout droit sorti d'un film de Kurosawa, référence permanente de Scorsese dans ce film, y compris, et tu en parles, Pierre, dans les images, dans ses façons de filmer la nature japonaise, dont on s'accordera à dire que ces images sont vraiment splendides, même quand au premier plan on a une scène de torture atroce, malgré tout il y a cette beauté mystérieuse également de la nature qui est derrière. Et toujours cette interrogation, est-ce que la nature de l'homme, c'est la foi, c'est la souffrance, c'est le premier plan? Est-ce que c'est pas cet arrière-plan de nature dans lequel tout se fond, ce marécage où l'on ne peut rien planter, dont il est question à plusieurs reprises dans le film?
Et la fin du film nous montre bien qu'on peut toujours rester ce qu'on est, malgré toutes les formalités.
Eh bien, c'est bien toute la question, est-ce qu'on peut? Justement, ouais, ça fait partie des multiples questions.
C'était assez parlant que la
ouverte.
Fin, c'était ça. Je sais pas.
Parce que
cette fin, elle m'a tellement déçu. C'était vraiment la cerise sur le gâteau. Genre, ah, voilà, forcément, il pouvait pas s'en empêcher et on s'y attendait en fait. Et c'est ça rentre justement dans c'est presque. Il nous donne la béquée. Et c'est insupportable, parce que justement, ce qui est intéressant, c'est ces moments de silence. C'est ces moments où, certes, il y a une interrogation, et où Rodrigo se pose la question « Dieu, es-tu là ?» Et après, on a juste le bruit de la nature. Et ça, ça marche, c'est saisissant. Sauf qu'après, on a 17 minutes de Rodrigo en train de dire « Mon Dieu, est-ce qu'il existe? Pourquoi tu me réponds pas? Qu'est-ce que tu fais? J'ai ça face à moi, j'en peux plus, je comprends rien et tout. » Et ça vient gâcher tout. C'est ça que j'ai pas aimé, c'est que c'est vraiment « Tiens, prendre la religion dans ta face. »
Je pense que nous ne nous mettrons pas d'accord sur ce film, décidément. Toujours est-il, donc, chers auditeurs, que nous ne pouvons que vous inviter à faire l'expérience vous-même. Le film est encore en salle au CNP Terreau et je vous invite à vous y rendre tranquillement en début de soirée. Vous en sortirez, il fera nuit et ça vous procurera de la réflexion pour les quelques jours qui suivront. Et nous enchaînons avec le deuxième film de cette semaine, à savoir Moonlight de Barry Jenkins. Alors le film est scindé en trois parties, ayant chacune pour titre un nom ou surnom donné au personnage auquel il s'attache. Et le film donc raconte la jeunesse difficile de Chiron, alias Little, alias Black, jeune noir dans une Amérique à cheval entre ce millénaire et le précédent. C'est un garçon, un adolescent, puis un jeune homme hanté par la quête de son identité, une identité intime puisque se pose la question de sa sexualité à travers tout ce film, mais aussi et surtout sociale tant il lui semble difficile de trouver sa place dans cette Amérique à la violence impitoyable. Un parcours initiatique donc, et on reviendra peut-être un petit peu plus en avant sur certains éléments saillants du scénario, mais pour commencer, Anna, quel est ton avis sur ce film ?
Alors, j'ai un avis assez mitigé, puisque je trouve que c'est un film qui a été beaucoup trop fait pour avoir des récompenses et des prix. C'est un film qui combine en fait tous les critères pour avoir un Oscar, puisque c'est un film où le personnage principal est noir, il est homosexuel, c'est adapté d'une pièce de théâtre autobiographique. Et du coup, tout dans ce film est construit en quelque sorte pour avoir un Oscar, pour répondre à tous les gentils critères qu'il faut avoir pour décrocher ce Graal. Et c'est pour ça que je trouve que sur l'aspect scénario, sur l'aspect jeu d'acteur, c'est un film qui est un peu trop sage, qui ne prend pas trop de risques par rapport à l'Académie et qui s'inscrit énormément dans l'air du temps. Et du coup, c'est pas du tout un film qui s'efforce de révolutionner quoi que ce soit cinématographiquement. À côté, ce qui rend mon avis mitigé, c'est la réalisation de ce film avec des plans absolument sublimes, dont un notamment dans la mer où la caméra est placée vraiment au niveau de l'eau et on voit le jeune Chiron en train d'apprendre à nager et c'est absolument sublime. Et c'est une scène où vraiment par la manière dont c'est filmé, on ressent toute la liberté que ressent le personnage principal. Et c'est pour ça que d'un côté, il y a vraiment une réalisation extrêmement soignée, extrêmement réfléchie, avec un jeu sur les couleurs, avec un jeu de cadre extraordinaire. L'acteur aussi, notamment celui qui joue dans la dernière partie du film, est vraiment très bon dans ce rôle. Et je trouvais ça vraiment extraordinaire, la manière dont par le jeu d'acteur, on peut rendre quelque chose qui nous paraît tout à fait cliché. Comment est-ce qu'on peut le métamorphoser en quelque chose de tout à fait inadapté et inadéquat au personnage et à sa personnalité.
D'accord. Eh bien alors, c'est étonnant parce que mon avis est mitigé également au milieu du concert de louanges qu'on entend dans la critique, mais pas nécessairement pour les mêmes raisons. Alors, je te rejoins complètement sur le jeu d'acteur que je trouve extrêmement bien dirigé, assez millimétré, et où malgré tout, il y a vraiment une puissance d'interprétation assez saisissante, en particulier de l'acteur qui joue ce Chiron adulte, qui est tout en retenue, mais une retenue qu'on voit se craqueler, se fissurer, où on voit les failles, et c'est vraiment très très beau. Je suis d'accord aussi évidemment sur la beauté plastique du film. Je trouve malgré tout qu'il y a quand même des grandes forces dans le scénario et j'étais assez satisfait par le fait que pour moi il évitait ce misérabilisme à Oscar que tu décris parce que Justement, les personnages secondaires qui pourraient porter ce misérabilisme, je pense en particulier à la mère Toxico, ces personnages, on passe au-dessus, on les voit, mais on ne s'attarde pas sur eux, on ne s'attache pas à ces personnages-là, on ne s'attache pas à toutes ces années où qu'il va passer en prison, etc. Et je trouvais ça assez habile de faire l'ellipse sur les passages où finalement il se passe des choses tragiques et se concentrer sur un quotidien peut-être beaucoup plus signifiant. Là où je trouve que le film trouve ses limites, c'est que j'aurais aimé que le réalisateur pousse sa démarche jusqu'au bout, en fait. Sa démarche de vouloir montrer cet effacement de quelqu'un face à l'impossibilité de se trouver lui-même, et que la mise en scène, comme le scénario, et comme finalement la démarche artistique, prolonge cet effacement, le pousse plus loin. Y compris dans la démarche artistique, il y a vraiment une volonté de rendre le film visuellement beau, presque jusqu'à la poésie, et je pense qu'en poussant ça encore un petit peu plus loin, l'influence du cinéma asiatique, l'influence de Terrence Malick, c'est des influences qui sont pas très loin, et je pense vraiment qu'il aurait peut-être fallu puiser un petit peu plus encore dans cet esprit-là pour vraiment faire atteindre le film une espèce de degré d'intériorité supérieur. C'est comme ça que je l'ai ressenti, c'est comme ça que j'interprète aussi la satisfaction en demi-teinte que j'ai tout simplement ressentie au moment de sortir du film.
Parce que moi, au moment de sortir, justement, parce que j'en suis sortie avec l'impression que j'avais vu un film où on retrouvait tous les clichés du genre, même si je sais qu'on se concentre pas mal sur la vie, mais tous ces clichés, ils sont évoqués tout le temps. Enfin, que la mère soit toxico, justement, qu'il finisse en prison, qu'il rencontre cet homme. Enfin, toute sa vie est entièrement faite plus ou moins de clichés du genre, mais c'est montré d'une façon qui n'est pas du tout cliché. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que du coup, quand on en sort, on se dit, j'ai vu une foule de clichés, j'ai vu un film avec une trame tout à fait classique, mais ça n'a pas été montré de la même façon.
C'est La La Land, en fait.
Non, mais non, tenez. Non,
c'est La La Land. Des clichés montrés autrement.
Mais là aussi, j'ai l'impression que c'est le cliché montré autrement, vraiment. Non, mais pas dans ce sens-là. Le but, en fait, ici, c'est juste comment est-ce que, en montrant une histoire qu'on croit tous connaître, C'est pas tant un genre que c'est une histoire qu'on croit tous connaître, un type de personnage qu'on croit tous connaître. Comment est-ce que ce film, par l'histoire et par l'intrigue et par la trame, déconstruit entièrement le cliché. Et je trouvais que justement, si on assumait beaucoup trop l'aspect rêve, et si on l'accentuait encore davantage, dans ce cas-là, on n'aurait pas eu cette approche aussi personnelle.
Tu parles de cette tension entre la réalité et le rêve, et quelque chose qui est assez fascinant dans ce film, c'est cette dynamique qui est à l'œuvre entre le lyrisme et la violence. Et je trouve que ça s'illustre très bien dans la dernière partie du film avec la musique, avec ce rap qui à la fois est porteur de moments où on plane un petit peu parce qu'il n'y a que cette musique avec les scènes dans des intérieurs de voitures très très aseptisées entre guillemets, et puis malgré tout une musique qui cogne avec des basses extrêmement fortes, et il y a ça aussi dans le personnage avec cette carapace de muscles mais au repos, et cette une violence lyrique ou un lyrisme violent, je sais pas exactement comment l'exprimer, et ça passe aussi dans la façon dont le réalisateur filme les corps. Et les corps et joue avec la peau de ces acteurs noirs, et ça donne lieu à des effets visuels absolument splendides.
Mais par rapport au corps, le rythme de violence, c'est surtout la scène dans la première partie où il se bat avec son ami, où justement on ne sait pas si on devrait s'inquiéter parce que c'est un combat à la vie ou à la mort entre les deux personnages qui se roulent dans l'herbe et qui se frappent vraiment d'une manière assez violente. Mais cette tournée avec tant d'amour et de lyrisme qu'on se pose des questions sur ce combat auquel on fait face. Et c'est souvent comme ça, en fait, il y a vraiment un second degré qu'on peut porter à chacune des scènes avec une seconde interprétation qu'on me proposait par rapport à tout ce qu'on voit. Et je trouve que justement le lyrisme, il se perd un peu dans la dernière partie, on pénètre dans une forme de réalité où on se dit qu'on n'a plus besoin de cette forme de lyrisme, de cette forme d'interprétation ou quoi que ce soit pour entrer dans les personnages et pour essayer de voir quelque chose de neuf dans ce qu'on voit. Que le jeu d'acteur suffira, que l'intrigue suffira et que tout ce qui a été installé depuis le début suffira. Et c'est là aussi où finalement le rêve, il devient plus qu'évoqué par les dialogues, par exemple la maison justement de son amant qui se trouve près de la mer, où il reparle de la mer, de la poésie, de l'eau, mais c'est dit juste en quelques phrases, en quelques mots, Et c'est plus autant montré avec des belles images, c'est plus figuré comme ça aurait pu l'être dans la première et la deuxième partie. Du coup, je trouve que c'est pratiquement une odyssée du rêve vers le réel, des possibilités scénaristiques vers un scénario choisi et une trame fixe qui déconstruit tout ce qu'on pourrait s'attendre et tout ce qu'on voudrait voir dans ce genre de film.
Et ça s'achève donc, et on terminera peut-être là-dessus avec cette scène finale extrêmement dépouillée qui justement parachève un petit peu cette très lente ascension vers une espèce de reconnaissance par soi-même de son identité, de sa sexualité, de qui il est, une façon de trouver sa place dans cette société aussi aux États-Unis et de trouver sa place quelque part devant un miroir.
Et ce qui est surtout intéressant en fait, c'est que à chaque fois, on a l'impression de retrouver le même personnage avec les mêmes caractéristiques, alors que les acteurs ne se ressemblent absolument pas physiquement. Et même le dernier Chiron, qui est devenu entièrement musclé et qui est plus aussi fin que dans la deuxième partie, on sait que c'est lui. Donc du coup, il y a forcément des indices qui sont éparpillés un peu partout dans le film sur sa personnalité et sur son identité. Et en même temps, lui ne sait absolument pas qui il est et comment il se construit. Et du coup, on assiste d'un côté à un personnage qui essaie de se construire et qui essaie de se trouver, et d'un autre côté, on le voit, on le reconnaît comme étant le Chiron et comme ayant une identité propre et tout à fait trouvée. Et c'est la collision entre les deux dans cette scène finale où on voit le Chiron avec tout son passé, tout ce qui se construit, tout ce qu'il a vécu pour en venir à là, avec son maître, son tuteur dans la première partie, qu'il essaye d'imiter par son physique et par son comportement, avec l'amour qu'il a porté pour son amant qu'on voit dans la deuxième partie. Tout ça se résout dans ce Chiron où finalement ce qu'on a vu comme indice et ce qu'on nous a présenté à l'écran se rejoint et casse cette image qu'on aurait pu avoir de ce personnage et de ce type d'homme dans la société aux États-Unis aujourd'hui.
Voilà, et bien donc ça s'appelle Moonlight, c'est encore en salle pour quelque temps, d'autant plus que ça a récupéré quelques Oscars, donc on vous conseille d'aller le voir et vous avez largement le temps. Malgré tout, allez-y, chers auditeurs, Moonlight de Barry Jenkins, donc.
Ted, suit up!
Lana. Lana. Lana.
Lana!
What? Danger zone.
Say my name. Eisenberg. You're goddamn right.
Cool. Cool, cool, cool.
Boy, these pretzels are making me thirsty.
While my days are not taking you seriously, they're certainly coming to a middle.
Plata o plomo.
Democracy is so overrated.
Office.
Winter is coming.
Et nous te retrouvons, Pierre, tu n'étais pas parti et tu vas encore une fois nous parler de série du coup.
Exactement. Rebonjour Rémi, je vais vous parler d'une série qui s'appelle Ugly Americans. Alors bonjour à vous tous les sériphiles, les sérivores en puissance qui nous écoutent. J'aurais bien aimé vous parler de Guyane de Canal+, qui a été diffusée de mi-janvier à mi-février, mais je n'ai pas eu le temps de la finir, ma vie ayant décidé de prendre le dessus sur mon addiction ces dernières semaines. Je vais donc en profiter pour vous faire découvrir une série tombée dans l'oubli, ou du moins que personne ne connaît dans mon entourage. Je vous vois venir. Oui, mais est-ce que ça ne serait pas le principe de ton émission, du coup, de parler de séries que personne n'a vues ? Alors, d'abord, je ne suis pas un hipster non plus, hein, je regarde Game of Thrones, ma série préférée House of Cards, j'ai suivi To How I Met, et j'en passe. Enfin bref, cessons de perdre du temps, et lançons l'arc principal de cette chronique. Je vais vous parler d'une petite série de seulement 2 saisons, qui a été annulée en 2013, malgré son talent, Ugly Americans. Du coup, il n'y a que 31 épisodes de 21 minutes, mais je les ai tous vraiment appréciés. Et comme vous savez, j'ai particulièrement aimé le fait qu'ils ont trouvé un moyen de conclure l'histoire dans leur dernier épisode. Bien sûr, ça se sent que c'est une fin forcée, mais ça passe quand même. Alors tout d'abord, avant de faire les plus et les moins comme un élève de primaire devant sa feuille de calcul mental, je vous préviens que c'est une série très particulière. Déjà, c'est un dessin animé, et vous allez très vite comprendre pourquoi, niveau réalisation, ça n'aurait pas pu être autrement. On suit donc, tout au long des 2 saisons, les aventures de Mark Lilly, jeune homme au grand cœur vraiment parfait qui travaille aux services sociaux du ministère de l'Intégration à Manhattan. Il vit avec son coloc et ami Randall Skeffington et a une relation avec sa supérieure. Jusque-là, rien de spectaculaire qui mérite que je m'attarde sur cette série. Sauf que si je vous dis que sa supérieure est une mi-femme mi-démon fille de Satan, PDG de l'inframonde, que son colloque s'est zombifié pour pécho une meuf mais qu'elle a changé d'avis pour préférer les loups-garous, que son collègue et ami n'est autre qu'un magicien centenaire alcoolique et déprimé, et surtout que dans l'univers de la série, les humains côtoient des espèces en tout genre, des hommes-oiseaux au cerveau maléfique, littéralement juste un cerveau avec un œil. Voilà, je pense que vous avez compris l'intérêt d'en faire un dessin animé. Il y a toute une ménagerie de monstres qui vivent avec les humains comme si c'était des immigrés. Et d'ailleurs, le métier de Mark Lilly est de les aider à s'intégrer aux États-Unis. C'est ça qui fait tout le charme de la série, mais en même temps, qui rebute aux premiers abords. J'avoue avoir dû m'accrocher pour les premiers épisodes avant de machinalement vouloir passer au suivant pour découvrir avec plaisir ce que Devin Clark et David Stern, les créateurs de la série, nous ont concocté. L'humour est du coup assez noir, tournant les personnages au ridicule, traitant de sujets particulièrement sombres avec des créatures vraiment bizarres. Mais l'humour vient du fait que Mark Lilly, le seul véritable être humain dans cette histoire en vrai, est on ne peut plus humain et on ne peut plus politiquement correct. Le décalage est vraiment délicieux. Après, il faut vraiment s'habituer au style de la série. J'étais particulièrement gêné devant les premiers épisodes avec toutes ces créatures dans des situations qui, pour nous, sont totalement normales, mais qui semblent vraiment très très bizarres quand c'est un zombie qui les fait. Par exemple, Randall se nettoie littéralement les yeux dans l'évier de la cuisine avec une brosse pendant que Mark Lilly prend son petit-déj juste à côté. En fait, la série n'a pas de tabou, elle parle vraiment de tout. Et c'est ça qui est génial, on suit la vie de Mark Lilly dans ses moindres détails tout en se marrant devant sa moralité et ses efforts pour rester politiquement correct. Du coup, on peut avoir une deuxième lecture de cette série et je pense que vous me voyez venir. Elle traite de tellement de sujets qu'on pourrait croire qu'il n'y a aucun sens derrière tout ça, mais en fait, si. C'est vraiment une série très ouverte qui vise à détruire les préjugés. Sauf que ce ne sont pas des préjugés sur les immigrants, les noirs, les arabes, les blancs, les autres qu'on connaît si bien, hein, les habituels. Non, ce sont des préjugés sur des créatures imaginaires. Par exemple, tout un épisode se concentre sur la fille de Grimes, le bras armé du ministère de l'intégration, qui sort avec un vampire. D'ailleurs, le personnage de Grimes est à la fois drôle et marquant. C'est le gros bras qui a une relation très 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 difficile avec les immigrés. Du coup, c'est le policier américain lambda qui est prêt à tout pour sauvegarder le système complexe d'obtention de la citoyenneté américaine et n'hésite pas à employer la méthode forte pour virer les clandestins. C'est le personnage contre-pied de Mark Lilly. Et tout au long de ces deux saisons, on en apprend plus. Sur lui, on lui découvre une personnalité plus profonde en fouillant son passé. De même pour tous les autres personnages. C'est vraiment ça qui rend la série excellente à mes yeux. Les personnages n'évoluent pas à proprement parler puisque la série se passe sur un laps de temps assez court au sein de la diégèse des deux saisons. Mais on apprend plus sur eux et du coup, ils s'épaississent. Même les immigrants, on les découvre petit à petit en même temps que Mark Lilly. D'ailleurs, détail amusant, il n'y a qu'un immigrant humain qui vient de Croatie et qui rêve de devenir président des États-Unis dans le groupe dont Mark Lilly s'occupe. En bref, cette série peut facilement rebuter, ce que je comprends, puisqu'il m'a fallu deux essais pour me plonger dedans et vociférer bruyamment en découvrant qu'il n'y a pas plus de 651 minutes de Ugly Americans. C'est-à-dire qu'en une journée, c'est plié. Rendez-vous compte, le désarroi est total. Mais la fin est assez cool. Du coup, ça va, je ne suis pas trop resté sur ma faim. Je la recommande très vivement à tout le monde, parce qu'il faut au moins essayer. Après, il y a des épisodes bien plus intéressants ou amusants que d'autres. Mais dans sa globalité, la série fonctionne vraiment bien. Les personnages sont excellents, du boss démon qui est vraiment un lâche en conflit avec sa virilité, au petit homme koala tout mignon et silencieux qui en fait était un dangereux criminel ayant massacré des femmes et des enfants dans une vie précédente en Bolivie, en passant par un homme-poisson pessimiste ou un robot doté d'émotions, mais pourtant terriblement cynique. Du coup, voilà, ça fait partie des dessins animés pour grands, et non, je ne parle pas de hentai, Rémi, qu'il faut avoir essayé dans sa vie parce que c'est vraiment excellent. Je lui accorde 18 cerveaux de zombies sur 21 green cards avec la mention « J'espère que ça ne réveillera aucun fétiche en moi parce que c'est vraiment chelou, mais je peux pas m'empêcher de regarder.
» Merci beaucoup, Pierre, pour cette série Ugly Americans. Donc, qu'on vous encourage à aller voir une fois que vous aurez fini Silence pour vous détendre peut-être un petit peu. Voilà, et comme d'habitude, nous terminons avec quelques petites idées de sortie pour cette semaine, et je commence avec Les Oubliés, un film de Martin Zandvliet qui sort cette semaine au CNP Terreau. Alors le film se déroule au Danemark en 1945, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, où plusieurs soldats allemands, à peine sortis de l'adolescence et faits prisonniers par l'armée danoise, sont enlevés en première ligne. On les envoie ramper sur les plages pour désamorcer les mines enfouies le long de la côte. Pour eux, la guerre est loin d'être terminée et ce film inspiré de faits réels raconte donc cet épisode tragique de l'histoire où ces soldats encore enfants sont donc employés comme prisonniers de guerre à cette tâche effroyable. C'est donc en salle au CNP Terreau. Voilà deux films maintenant qui sont sortis il y a quelques temps et dont je voulais rappeler qu'ils sont toujours en salle à Lyon. Je commence avec Born to be Blue de Robert Budro, film sur Chet Baker. Donc avis à tous les amateurs de jazz, vous pourrez encore voir ce film ces jours-ci au cinéma Opéra. Également Gimme Danger de Jim Jarmusch, placé pour les amateurs de rock plutôt, puisque c'est le documentaire que le réalisateur consacre à Iggy and the Stooges, le célèbre groupe d'Iggy Pop. Et le film est toujours en salle au Comédia, paraît-il qu'il est excellent, j'ai pas eu la chance de le voir pour l'instant, je vous encourage tous à vous y rendre, donc pour les amateurs de musique. Je rappelle que Les Derniers Parisiens, dont je faisais déjà la promotion ici la semaine dernière, est toujours en salle également au CNP Bellecour. Les Derniers Parisiens, film noir, film qui se plonge dans les bars interlopes de Pigalle, film salué par la critique également avec Reda Kateb et Mélanie Laurent. Film enfin réalisé par le célèbre duo de rappeurs Amé et Kwe, que je ne peux donc que vous encourager à aller voir également. Et du côté des événements cinéma à Lyon, alors ça sera la semaine du cinéma italien pour vous. Je commence avec une projection du Voleur de bicyclette, le célébrissime film de Vittorio De Sica, projeté au ciné-café Aquarium ce jeudi à 20h45. Le film raconte l'histoire d'Antonio qui a besoin de sa bicyclette pour coller des affiches, travail qui lui permet de nourrir sa famille. Et un jour, il se fait voler sa bicyclette, indispensable outil de travail, et part à la recherche du précieux objet dans Rome avec son fils de 7 ans, avant de devenir lui-même voleur de bicyclette. Film tragique, mais extrêmement délicat. Le Voleur de bicyclette est un des grands chefs-d'œuvre du cinéma italien, et pour ceux qui n'auraient pas eu la chance de le voir à ce jour, eh bien, allez-y, c'est au Ciné-Café Aquarium, donc à Croix-Rousse, ce jeudi soir. Et puis à La Fourmi, jeudi et dimanche, des séances présentées de « Mon Dieu, comment suis-je tombé si bas » de Luigi Comencini. Alors là, on est complètement du côté de la comédie, une comédie qui nous emmène en Sicile au début du XXe siècle, où un marquis et sa promise découvrent lors de leur nuit de noces qu'ils sont frères et sœurs. Il leur est donc impossible de consommer le mariage et pour des questions d'apparence à sauvegarder et d'héritage, ils décident de ne rien dire à personne et de vivre dans la chasteté absolu, mais les besoins de la belle sont de plus en plus pressants. Alors, on est très loin du Voleur de bicyclette, mais ça n'en est pas moins également un grand film du cinéma italien qui passe donc à La Fourmi plusieurs fois en cette fin de semaine. Et puisqu'on parle de comédie italienne, la nouvelle rétrospective du cinéma Lumière commencée aujourd'hui est consacrée à l'immense réalisateur Dino Risi, artiste emblématique de la comédie italienne, comédie toujours extrêmement satirique, car le réalisateur était un observateur acéré de la société italienne, nous dit l'Institut, et a véritablement réinventé la comédie en la sortissant d'un pan social extrêmement développé qui l'a fait se pencher sur la condition des femmes, la corruption, la place de l'Église, la sexualité, etc. Donc un certain nombre de films seront en salle à l'Institut Lumière au cours de ce mois de mars et du mois d'avril. Et là aussi, profitez-en, c'est drôle et intelligent à la fois. C'est donc une rétrospective consacrée à Dino Risi à l'Institut Lumière. Voilà, d'Étoile plein les yeux, c'est terminé pour ce 49e numéro. Aujourd'hui, pour le cinéma, c'était Anastasia Kozireva, Pierre Lemuel, Anna Logacheva, Marie Lécuyer et Rémi Cerda. Et pour les séries, donc Pierre Lemuel comme d'habitude. Nous vous retrouvons la semaine prochaine avec l'inestimable Les Fleurs Bleues d'Andrei Vajda que je vous encourage d'ores et déjà à aller voir et Le Secret de la Chambre Noire de Kiyoshi Kurosawa pour le 50e numéro de votre émission de cinéma sur Transistor. D'ici là, je vous souhaite une excellente semaine dans les salles obscures. Yatkoi.